Justement, toujours dans cette idée de modernisme aux nouvelles technologies, en demandant à Xavier Briffaut de venir faire la première présentation sur le numérique, simple outil ou véritable levier de changement pour les usagers et les professionnels, en nous parlant de deux projets spécifiques que sont ECM et EMEN. Merci.
Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas Xavier Briffaut. Ça peut être surprenant. Il est là. Voilà. En fait, on fait une intervention en deux temps sur la demi-heure qui est consacrée aux nouvelles technologies en santé mentale. Et donc, du coup, voilà, on va faire une première partie sur le premier quart d'heure que je vais faire sur l'exploitation de données qu'on a pu avoir via une recherche qualitative et quantitative qu'on a pu faire sur l'utilisation des nouvelles technologies en santé mentale. Et ensuite, je passerai la parole à Xavier Briffaut qui pourra un peu essayer de penser l'avenir avec vous sur ce que ces nouvelles technologies peuvent impacter sur à la fois l'organisation des soins et la prise en charge et en soins au sens large en santé mentale / psychiatrie. Puisque du coup, je commence avec cet inconnu sémantique qui a été une des premières questions posées quand on parle de e-santé mentale. De quoi parlons-nous ? Pourquoi ne pas dire e-psychiatrie plus que e-santé mentale ? Et on va essayer de le voir ensemble. Donc juste pour me présenter, je suis psychiatre et je prends la parole au titre de mon activité au Centre collaborateur de l'OMS qui a été le porteur de la recherche que je vais vous présenter. Donc tout d'abord le contexte, pourquoi le Centre collaborateur de l'OMS s'est intéressé à la e-santé mentale et aux nouvelles technologies dans ce domaine. Il y a un gros projet européen qui est porté par Interreg en ce moment, qui a débuté en 2016 et qui court jusqu'en 2019, qui s'est proposé de réfléchir au sein d'un consortium avec 10 partenaires et 6 pays à l'évolution de la santé mentale à travers l'utilisation des nouvelles technologies. L'objectif principal de ce projet est la création d'une plateforme d'innovation et d'implémentation dite transnationale, puisque du coup on est plusieurs pays, de la e-santé mentale en Europe du Nord-Ouest. Donc c'est un projet qui est assez ambitieux, puisque l'on part de pas grand-chose. Dans certains pays, les utilisations sont plus importantes que d'autres, mais on est quand même encore au balbutiement de l'utilisation de ces dispositifs. En tout cas, on a encore peu de recul sur leur efficacité et leur évaluation. Alors, il y avait 5 autres objectifs posés par le consortium au sein de ce projet. La première, c'était toute une dynamique de sensibilisation et d'information, donc par le biais d'organisations, de séminaires, de conférences. Également des financements dédiés au développement de dispositifs, donc là qui étaient axés sur la dépression, les troubles anxieux et l'état de stress post-traumatique. Également le développement d'une méthode économique d'évaluation de la qualité des dispositifs, donc basée sur les preuves, puisqu'effectivement, qui dit développement de nouveaux dispositifs dit à un moment donné s'assurer que c'est efficace et que ça sert, mais quid de ce que c'est qu'un dispositif efficace, à qui ça sert exactement et dans quel délai pour les personnes concernées, puisque la question de la temporalité dans ces utilisations se pose également. Le quatrième objectif, c'était le soutien aux PME, donc petites et moyennes entreprises / start-up. Et enfin, la rédaction de recommandations politiques transnationales qui visent à développer des dispositifs qui seraient plus efficients et qui nous aideraient aussi à mieux circonscrire le cadre réglementaire d'application de ces nouveaux dispositifs, puisqu'il y a pléthore de questions à la fois éthique et sur le plan juridique quand on parle des nouvelles technologies, qui plus est en santé mentale. Donc ça, je l'ai déjà dit, 6 pays, 10 partenaires, donc l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, l'Irlande, le CSOMS pour la France et la Hollande. Donc quels étaient les chiffres avancés par le consortium pour lancer ce projet ? C'est une utilisation moyenne des solutions de e-santé mentale qui était de 8%, donc sur l'ensemble de la zone concernée. Avec une utilisation donc, du coup, qui est plutôt très très faible par rapport aux autres secteurs de la santé. Ce sont les Hollandais qui sont les plus avancés pour l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et puis la France qui était plutôt très à la traîne avec moins de 1%. Alors on s'est rapidement posé la question au Centre collaborateur de l'OMS de savoir, au-delà du fait qu'on avait quand même pas mal de mal à documenter l'origine de ces chiffres, on s'est posé la question de la représentation et de l'utilisation des dispositifs par les usagers, puisque la participation des usagers au centre collaborateur de l'OMS est un des axes forts de notre activité et également un de nos fils rouges. Et effectivement, se poser la question de la représentation, avant de se poser la question de l'utilisation, on se pose tous la question de savoir mais ce que c'est, à quoi potentiellement ça pourrait nous servir, et on n'avait pas trouvé d'études sur ce sujet. Donc du coup, je vais vous présenter ECUME, qui est donc une étude empirique des représentations et des usages de la e-santé mentale. Donc, il s'agit d'une analyse sociologique des représentations avec deux grands objectifs. Le premier, c'était la mise en évidence des représentations et de l'utilisabilité de dispositifs de e-santé mentale. Et puis le deuxième, c'était le fait de pouvoir établir une typologie, donc des profils de groupe pour ces représentations et ces utilisations. Alors ECUME, ça a été donc c'est étude qualitative de l'usage et de l'utilisabilité des dispositifs mHealth par l'ensemble des parties prenantes. Je vous l'avoue, c'est extrêmement barbare. ECUME, c'est plus simple. Donc du coup, il y avait deux volets. C'est une méthode mixte de recherche qu'on a appelée sociale, qui a été menée avec Margot Morgiev, qui est chercheuse en sociologie de la santé mentale, avec du coup deux grands volets, un volet qualitatif et un volet quantitatif. Le volet quantitatif est actuellement en cours. On a commencé une diffusion des questionnaires pour avoir une idée de l'usage de ces dispositifs. C'est un questionnaire de passation extrêmement courte qu'on a diffusé dans les cabinets de médecins généralistes et dans les CMP, dans plusieurs centres. Je vous en donnerai que quelques résultats extrêmement préliminaires, puisque la diffusion et la collecte des questionnaires est encore d'actualité. On va arrêter la collecte à la fin de l'année, mais je vous donnerai les grosses premières tendances, puisqu'il y a des chiffres qui ressortent et qui donnent quand même des grandes orientations pour arriver à réfléchir sur cette thématique. Et donc du coup, le volet qualitatif que je vais pouvoir vous présenter de manière un peu plus précise, qui a fait déjà l'objet d'un rapport que l'on a rendu à nos financeurs, puisqu'on a eu l'aide de la Direction générale de la santé pour mener cette étude. Donc ça a consisté en la réalisation de 10 focus groups qui ont regroupé au total près de 70 participants. On avait une grille d'entretien semi-directif, tous les entretiens ont été enregistrés, comme les règles de passation des focus groups nous demandent de le faire. Alors, la présentation, là, ça change un petit peu de style. Sous l'idée de Margot Morgiev, l'idée, c'est de présenter à chaque fois les résultats de l'étude qualitative via le filtre du jeu Clash of Clans. Alors, je ne sais pas s'il y a des joueurs de Clash of Clans parmi vous, mais l'idée, c'était de dire que quand on a questionné la thématique de la e-santé mentale auprès des participants qui ont fait cette étude, eh bien, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait une systémie un peu particulière entre les groupes de personnes, les groupes professionnels, avec parfois des tensions relationnelles qui pouvaient y avoir entre ces groupes ou clans. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de prendre cette métaphore pour présenter les résultats. Donc là, c'est l'ensemble de tous les groupes qui ont participé à cette étude. Donc les psychiatres, les médecins généralistes, les psychologues, les infirmiers, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, représentants d'usagers, usagers, aidants, également un groupe tout public. Alors les étoiles donnent juste des indications sur les caractéristiques sociodémographiques. Le cœur représente l'âge, la moyenne d'âge du groupe. L'élixir violet dans Clash of Clans, c'est la connaissance. Nous, on a voulu l'attribuer à un indice de familiarité des technologies, des nouvelles technologies et des dispositifs de e-santé mentale. Concrètement, quand on regarde un peu tous les chiffres associés aux élixirs violets, on se rend compte que c'est très très bas. C'était sur une échelle de 1 à 10. Et tous les groupes se situent très largement en dessous. Ce sont les médecins généralistes qui semblaient se déclarer les plus familiers avec les dispositifs de e-santé mentale. Et donc les usagers représentés par l'étoile blanche étaient les plus nombreux, puisqu'ils étaient 12 dans le groupe. Et voilà, les psychologues étaient le groupe le plus jeune et les aidants les plus âgés. Alors je vais juste vous présenter les 5 grandes thématiques. Je ne vais pas pouvoir vous présenter toutes les façons dont les thématiques ont été déclinées dans cette étude, mais pour les 5 thématiques qui sont ressorties, qui sont celles qui sont affichées ici, je vais vous donner à chaque fois la thématique qui a été la plus partagée par l'ensemble de tous les groupes, y compris quand, à l'intérieur d'un même groupe, l'ensemble des participants étaient favorables à la thématique que je vais vous énoncer. Donc la première thématique, c'est celle des configurations et des tensions relationnelles entre la psychiatrie et la santé mentale. Donc là, on est hors nouvelle technologie, mais c'est ce que je vous disais, c'est que quand on parle de e-santé mentale, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas comment le définir. Et donc, c'est rapidement posé la question de savoir comment on pouvait décrire ces champs de psychiatrie et de santé mentale. Alors voilà, la première idée qui est ressortie, c'est qu'on avait des frontières qui étaient circonscrites et qui définissaient des champs extrêmement distincts, avec des champs de juridiction qui ont été donc amenés par la majorité des groupes pour cette question-là, avec des champs de juridiction qui attribueraient la prise en charge des troubles sévères à la psychiatrie et puis celle des troubles légers à la santé mentale. Donc les autres configurations, c'était celle de l'appartenance de la psychiatrie à la santé mentale, le grand renversement hiérarchique énoncé par Alain Ehrenberg, mais c'était pas le plus partagé. Ce qui était le plus partagé, c'est cette notion comme ça de champs distincts, avec également une remise en question des territoires de compétences de chaque groupe professionnel, puisque du coup, qui fait quoi, qui s'occupe de quoi? Alors la sévérité plutôt pour les médecins, et quand c'est un peu moins sévère, pour les gens qui sont psychologues. Voilà ce qui a été annoncé pour cette première thématique. À chaque fois, quand il y a des textes dans une bulle comme ça, c'est du verbatim directement extrait de l'étude. La santé mentale, ce n'est pas que l'affaire des psychiatres. Voilà ce qui a été dit par un des participants. La deuxième thématique, c'était celle de la répartition des compétences et des modalités de collaboration. Alors, ce qui a été dit unanimement, c'est qu'il y avait une impossibilité de remplacement des acteurs humains par des acteurs technologiques. Ça, c'est intéressant, puisque du coup, ça a été conforté par les résultats de l'analyse quantitative qu'on a menée, avec une défense du domaine de compétences et une forme de technique de disqualification de la e-santé. Avec, donc là, c'est le bouliste qui nous dit « ce n'est qu'un gadget ». Quand j'entends e-santé, je me dis que c'est encore un truc biobo-marketing, commercial. J'ai pas l'impression qu'on parle de la médecine. La médecine, c'est un truc sérieux avec des outils dont on se sert. Donc voilà typiquement le genre de verbatim ou de réticence qu'on a pu recueillir et qui était en faveur de l'impossibilité de remplacement des acteurs humains par les acteurs technologiques. Autre type d'argument, la e-santé, c'est faire croire qu'on peut soigner autrement que par l'écoute et par la parole. C'est croire qu'on peut se soigner avec son portable. Ce serait de la santé au rabais. Donc voilà, ça a été une des avis qui étaient partagés et qui nous font penser que ces participants mettaient encore la technologie sous l'autorité médicale et que ça devait rester contrôlé par ce groupe professionnel. La troisième thématique, c'est celle de l'impact de la e-santé sur la relation spécifique soignant-soigné, puisque du coup, on se pose la question de l'utilisation, mais de la façon dont ça va venir remodifier les rapports entre l'ensemble des acteurs du soin, et donc y compris les personnes concernées, usagers, proches, aidants. Et ce qui est ressorti sur cette thématique, c'est l'idée que les nouvelles technologies étaient plutôt identifiées comme un agent d'induction et de densification relationnelle, à travers plusieurs thématiques. Donc la première, c'était que c'était un vecteur de lien, de connexion, de réseau, que ça permettait une reconfiguration des rapports hiérarchiques, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, et puis une localisation du soin dans la sphère privée, c'est-à-dire que ça vient complètement dématérialiser le soin, c'est-à-dire que ça va être décidé par la personne concernée et non plus dans le cadre d'une consultation qui pourrait se faire dans le cabinet ou ailleurs, mais en tout cas, la personne devient autonome sur la temporalité et sur le moment où elle décide de solliciter le soin. Et donc, il y a quelqu'un qui nous disait « on pourra convoquer son psy dans son salon ». Qui me faisait qui utilisait l'image qu'au final c'est pas la personne qui se déplaçait mais c'est que par le biais du nouveau dispositif portable, tablette, ordinateur ou autre que du coup on pouvait convoquer le soin. La quatrième thématique, c'est celle du processus d'autonomisation ou d'injonction à l'autonomie, ça fait l'un ou l'autre, sujet qui nous est cher également au centre collaborateur de l'OMS puisque quand on parle de e-santé mentale, en tout cas le prisme qu'on a décidé de prendre pour parler de ce sujet-là, c'est celui de l'empowerment des usagers, donc de la capacité de s'autonomiser, la capacité de se rétablir et d'avoir un soutien au rétablissement, éventuellement via les nouvelles technologies. Mais donc du coup, c'est un sujet qui est extrêmement important. Qu'est-ce qui est ressorti ? La position majoritaire, c'était de dire que la technologie participe au processus d'expertise et d'autonomisation, en ce sens qu'elle horizontalise les formes du pouvoir soigné et du pouvoir décider. Et donc, un des verbatim nous dit « Le fait d'avoir des informations nous rend indépendants des médecins. Cela nous amène vers le chemin de la guérison. » Et donc, même à travers cette thématique de l'empowerment et du soutien éventuel au rétablissement, se pose la question des rapports hiérarchiques entre les savoirs. C'est-à-dire, de quoi je dispose, comment je peux mieux m'informer, comment je peux mieux être autonome dans ce que je sais être bon pour moi. Et donc, rapidement, cette thématique vient en opposition avec ce que le médecin ou ce que le professionnel peut amener. Et donc, ça venait étayer l'hypothèse de ces tensions entre ces champs de juridiction quand on parle de nouvelles technologies. Enfin, la dernière thématique qui est ressortie, c'était celle de la régulation de l'écosystème socio-technologique. C'est également un mot un peu barbare, mais pour simplement se dire et se poser la question de savoir au final qui régule tout ça. Qui valide, qui transmet l'information quand on sait qu'un outil est validé ou pas. Et ça, Xavier Briffaut va vous en parler un petit peu plus. Ce qui est ressorti au niveau de cette thématique-là, c'était que la régulation devait continuer de se faire sous l'autorité du système de santé, avec des acteurs qui ont été identifiés comme légitimes pour réguler le champ de la e-santé mentale, à savoir le ministère de la Justice, de la Santé, les chercheurs, les médecins, les professionnels qui représentent les patients, les usagers, les familles, les pères aidants, l'ensemble des acteurs du soin. Avec quelqu'un qui nous dit « l'utilisation des nouvelles technologies rentre dans un système de santé et un système de santé a ses règles ». Donc, sous-entendu, ce qui s'applique au système de santé doit continuer de s'appliquer au e-système de santé, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Donc, ce qui est également ressorti, c'est la crainte d'être surveillé, jugé, avec des risques judiciaires potentiels. Et puis, ce qui est également ressorti, c'est le souhait d'une présomption de bienveillance, qui est quand même ressorti à l'écart du corps médical, et présomption de confiance pour l'utilisation et le partage de ces nouveaux dispositifs dans l'accompagnement avec les professionnels de santé. Voilà ce qui a été donc du coup cette étude qualitative. Alors on pourrait me dire que c'est pas très très puriste sur le plan qualitatif de ne présenter que les positions les plus partagées, puisque du coup qui dit étude qualitative devrait dire qu'on vous présente le panel de ce qui a été discuté, puisqu'on n'est pas dans des rapports quantitatifs à savoir ce qui a été le plus ou pas. Cependant, ça donne quand même les grandes orientations de ce qui a été discuté. Ce que l'on retient malgré tout, c'est qu'il y a une hétérogénéité assez importante sur le sujet. Bien évidemment, si les positions étaient consensuelles, ça se saurait. Et même si ça se développe à vitesse grand V, nous sommes encore à une étape, je pense, assez embryonnaire, en tout cas pour ce qui est de l'impact de l'utilisation de ces dispositifs sur la santé des personnes concernées. Et donc je vous dis juste, je vois que le temps est fini, je prends une minute supplémentaire pour présenter juste les grands chiffres qui sont ressortis de l'étude quantitative. Donc ça a été un questionnaire très court dont je vous ai parlé tout à l'heure, en deux pages, qu'on a décidé de diffuser donc dans les cabinets de médecins généralistes et dans les CMP. Pourquoi on voulait faire ça? Déjà, on voulait appuyer les résultats de l'étude qualitative. Et puis, dans tout ce qui est baromètre santé, ce qui ressort, ce sont les chiffres d'utilisation de son téléphone, de l'utilisation d'Internet, mais en population générale. Et donc, on voulait s'attarder à essayer de comprendre ces chiffres-là pour la population concernée, donc une population qui, à un moment donné, a un besoin de soins, puisqu'elle va consulter dans un cabinet de médecine générale ou au CMP. Donc aujourd'hui, on a recueilli 1165 questionnaires sur 13 sites, sur 17 CMP, et alors par contre, on a des chiffres pour les cabinets de médecine générale qui sont vraiment moindres, puisque du coup, la diffusion à travers notre réseau a été plus difficile. C'est juste, les chiffres sont tellement massifs que du coup, c'est juste pour donner des grandes orientations de réflexion et puis également étayer le questionnement que va soulever Xavier Briffaut juste après moi. Est-ce que les gens utilisent couramment Internet sur baromètre santé? C'est massif, on sait que c'est près de 90%, mais sur cet échantillon-là qu'on a ciblé, c'est plus de 80%. Est-ce qu'ils ont déjà utilisé Internet pour des questions de santé? C'est également massif, c'est 70%. Et à chaque fois, on a complété la question pour savoir si est-ce que ça avait été utile pour eux. Eh bien, dans la majorité des cas, ça a été utile. Donc, pour les questions de santé, c'était très utile. Pour les questions de santé physique, en haut à gauche, à droite, c'était également très utile pour le trois quarts d'entre eux. Est-ce qu'ils ont déjà utilisé Internet pour des questions de santé mentale? Tac, les rapports s'inversent. Donc, sur l'échantillon total, on voit que l'attrait ou l'utilisation d'Internet pour les questions de santé mentale est beaucoup moins important. Par contre, quand les gens l'ont utilisé, près de 70% nous disent que ça a été utile pour eux. Maintenant, quand on cible la population de ceux qui ont un usage courant d'Internet et qui se déclarent concernés par un problème de santé mentale, puisqu'il y avait cette question-là de savoir s'ils étaient concernés ou pas par un trouble de santé mentale ou un problème physique, et ben les chiffres sont extrêmement massifs. Donc cette population-là peut également être une population cible pour communiquer et sensibiliser sur l'utilisation des nouveaux dispositifs, parce que ce sont des gens qui utilisent Internet pour des questions de santé, qui ont trouvé ça utile. Ils l'utilisent également énormément pour les questions de santé physique. Donc ça pose aussi la question, je sais qu'on a évoqué les sujets de comorbidité et d'intrication des problèmes physiques et de santé mentale. Quand les gens se sentent concernés par un problème de santé mentale, ils se renseignent énormément pour leur santé physique et ils disent que ça a été extrêmement utile pour eux. Et pour leur santé mentale, eh bien évidemment, là par contre, les rapports s'inversent. C'est ceux qui sont concernés, qui se déclarent concernés par un problème de santé mentale, qui vont chercher de l'information sur les problèmes de santé mentale. Et quand ils le font, ils déclarent que ça a été extrêmement utile. Je passe cette slide-là. C'est la dernière diapo avant de passer la parole à Xavier Briffaut, puisque quand on parle de e-santé mentale, on parle de santé mentale. Et mon étiquette CCOMS ne me fait pas oublier les questions de stigmatisation, de représentation, qui sont également des questions soulevées par ces thématiques de nouvelles technologies, ce qui, pour l'instant, sont des résultats préliminaires. On est encore très, voilà, on est très précautionneux. Mais ce qui ressort, c'est que ce sont les gens qui se déclarent concernés par des problèmes de santé mentale qui vont se renseigner. On a juste été un tout petit peu interpellés par les personnes qui se disaient concernées par un problème de santé mentale, notamment dans les lieux de consultation pour des soins de santé mentale. Donc c'est le tableau de droite. Il y a juste la colonne CMP qui est à regarder. Il y a deux tiers des patients qui vont consulter pour un... Alors je ne peux pas dire pour un trouble de santé mentale, c'est des gens qui vont consulter dans un centre médico-psychologique qui déclarent être concernés par un centre de santé mentale. Donc ça repose la question de, au final, la reconnaissance du trouble. Et pour aller chercher de l'information, alors il faut que j'identifie un besoin. Et quid au final de la population à qui pourrait servir l'utilisation de ces nouvelles technologies? C'est une question qu'il faut qu'on garde en tête et qu'on n'oublie pas de traiter, puisqu'effectivement, on l'a dit juste avant, mais le développement des nouvelles technologies, si ça ne répond pas à des besoins identifiés, ça risque de perdre de son sens. J'ai dépassé mon temps, j'en suis sincèrement désolée, et je te passe la parole, Xavier, pour nous parler de l'avenir et au final de la façon dont ces nouvelles technologies peuvent impacter l'organisation des soins.
Merci Déborah. Je me présente rapidement, donc Xavier Briffaut, je suis chercheur en sciences sociales et en philosophie de la santé mentale au CNRS. Donc Déborah vous a dit que j'allais vous analyser l'avenir, donc je n'ai plus le choix. Je suis obligé donc de me livrer à cette activité à haut risque spéculatif qui consiste effectivement à essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer demain dans le champ de la psychiatrie. Dans l'articulation dont je vais vous montrer que je la suppose assez fine, cette articulation entre les nouvelles technologies numériques, en particulier les objets connectés, et la manière de penser les problèmes en psychiatrie. Alors, manière de penser les problèmes en psychiatrie, voyons d'abord comment on les pense actuellement de façon idéale, typique. Donc vous reconnaissez là le DM du DSM. Deux éléments que je voudrais retenir dans cette manière de concevoir les troubles. D'une part, vous avez une liste de symptômes, donc c'est un syndrome. Ces symptômes sont supposés indépendants les uns des autres, c'est-à-dire ils ne se causent pas mutuellement. Et ils ne se causent pas mutuellement parce qu'ils sont supposés être l'effet d'une cause commune, une maladie, en l'occurrence la dépression, elle-même étant supposée être l'effet d'une ou de, on va dire, de peu de causes, en l'occurrence par exemple la sérotonine. Alors c'est un idéal type, bien évidemment c'est plus complexe que ça. Déjà si c'est la sérotonine, c'est pas la sérotonine, c'est le système sérotoninergique, etc. Mais si vous regardez bien, c'est un attracteur très fort, l'hypothèse monocausale. On en a vu encore un exemple tout à l'heure avec le gène de l'espoir et de la dépression que Philippe Gorwood a rattaché au gène du transporteur de la sérotonine, avec je suppose une référence implicite à l'étude de Caspi, voilà, dans Science 2003, je sais plus, quelque chose comme ça. Bon, on a très vite tendance à revenir à des hypothèses monocausales comme ça, que une cause cause une maladie qui cause des symptômes qui sont indépendants les uns des autres. Or, si on regarde ce qu'on obtient empiriquement, en l'occurrence avec des questionnaires répétés, des mesures répétées par des outils numériques, sur en l'occurrence un trouble limite de la personnalité, on voit tout de suite qu'on n'est pas du tout dans une causalité linéaire. Bien évidemment, Ça, les différents éléments du trouble de l'humilité de la personnalité. Alors, vous reconnaissez la rage, vous reconnaissez le sentiment d'isolement, le sentiment dépressif, les difficultés à faire face au stress, le sentiment fluctuant d'identité personnelle, bref, tout un tas de choses. La dissociation qui se cause mutuellement, alors se cause positivement, s'inhibe, se crée, se stabilise, s'entretiennent mutuellement. Et dans le cas de ce trouble particulièrement complexe et labile qu'est le trouble limite des personnalités, quand on regarde empiriquement comment les symptômes fonctionnent, et on n'est pas du tout dans une causalité linéaire, on est dans des causalités systémiques. Mais ça, c'est vrai même dans le cas de la dépression. Je m'appuie ici sur cette étude qui regarde la dynamique idiographique des troubles de l'humeur. Et chez un patient, alors toujours pareil, mesure répétée, un certain nombre de symptômes, entre guillemets, typiques de la dépression. Vous voyez ici une organisation chez une personne particulière de la manière dont les symptômes se causent mutuellement avec les difficultés de concentration qui sont un nœud de dispersion particulièrement fort. Tandis que chez une autre personne, ça va être les sentiments positifs qui vont être massivement déterminants et l'organisation du réseau ne va pas du tout être la même. Si on prend encore une troisième personne, on va aussi avoir les sentiments positifs qui vont être très structurants, mais l'évitement des rapports avec les autres va l'être tout autant. Et là encore, l'organisation générale des relations entre symptômes est très différente. Et ce, sur des données empirique. Alors, ça rejoint des sensibilités chez les cliniciens qui ont tendance à dire qu'effectivement, les gens sont différents les uns des autres, plutôt qu'ils ne soient tous rendus similaires par un trouble qu'ils ont. Si on regarde même sur la base d'une échelle standardisée, en l'occurrence l'échelle de Beck, et qu'on fait à nouveau ce style de mesure répétée, on voit là encore que les différents 21 items de l'échelle de Beck sont dans des relations complexes les uns avec les autres et que finalement on est dans tout un grave d'enchaînement de causalité qui fait que on n'est pas du tout dans une cause détermine une maladie qui détermine des symptômes, mais beaucoup plus dans quelque chose de dynamique où les éléments se causent les uns les autres. Alors si on regarde un exemple un peu plus concret avec ces deux personnes, donc Dominique et Claude, une étude de Borsboom parue dans PLOS ONE. Alors chez Dominique, donc on a une rupture, donc un événement dans le monde extérieur. Chez Claude, on a un licenciement. La rupture cause ici directement une humeur dépressive, tandis que chez Claude, ça va causer, une augmentation de la consommation de sucre ou une diminution de l'activité physique, en tout cas une prise de poids. Ici, l'humeur dépressive va générer de l'auto-accusation, une suicidalité accrue, des problèmes de sommeil, un ralentissement psychomoteur, une irritabilité qui vont transitionner vers un trouble anxieux généralisé à partir des éléments d'un syndrome dépressif. Tandis que chez Claude, le poids, les problèmes de poids engendrent des problèmes d'auto-accusation qui engendrent des problèmes de sommeil, qui engendrent une fatigue, des problèmes de concentration, de l'anxiété, etc. On voit que les chemins d'enchaînement ne sont pas du tout les mêmes. Ça a mené au développement récent, on va dire dans les 10 dernières années, de tout un champ de recherche sur ce que donc des chercheurs qui le portent, comme Denis Borsboom, appellent une théorie en réseau des troubles mentaux. Donc l'idée qu'effectivement les symptômes se causent mutuellement de façon complexe et que par ailleurs ils sont reliés à des événements extérieurs du monde qui eux-mêmes se causent de façon complexe et que donc on a une logique de système qui va aller jusqu'au fait que ce qu'on appelle typiquement la dépression, donc une entité réifiée, hein, l'hypothèse d'une maladie pour laquelle il y aurait un corrélat psychologique, mais beaucoup aujourd'hui biologique, bah finalement cette entité réifiée, ça pourrait n'être qu'une réification arbitraire finalement d'une stabilisation dans une zone du réseau, une sorte de cercle vicieux dans lequel ça se mettrait à tourner parce que les symptômes se causeraient mutuellement les uns les autres, un bassin d'attraction, hein, pour le dire comme dans la théorie des réseaux de neurones. Et donc, quand ça se stabilise dans un bassin d'attraction comme ça, ça devient stable et on finit par l'appeler une maladie. Alors, ça, ce sont des évolutions dans la conception des troubles. Elles sont relativement indépendantes du développement des outils numériques, mais néanmoins, elles sont permises, vous l'avez vu, par le développement des outils numériques, parce que ce sont des systèmes de mesures répétées en situation, en contexte, qui permettent d'obtenir des données empiriques de ce type. Alors, si on s'intéresse maintenant à ce que peuvent faire les nouvelles technologies numériques, et en particulier les objets connectés, je vous ai mis ici une liste qu'on trouve dans un article de Harari, dans Perspective on Psychological Science. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec des outils qu'on trouve partout, des smartwatches, des smartphones. Alors, c'est capable, par exemple, de mesurer votre degré d'activité, le nombre de fois où vous vous levez, où vous marchez, où vous courez, votre pattern de mobilité, est-ce que vous restez beaucoup chez vous, est-ce que vous vous éloignez de chez vous, si vous vous éloignez de chez vous, est-ce que vous êtes toujours au même endroit, si vous êtes toujours au même endroit ou à des endroits différents, ces endroits différents changent-ils au cours du temps? Ça, on va le savoir très facilement avec un simple GPS. Le nombre d'endroits différents qui sont visités, la variabilité de la localisation, les modes de transport utilisés, les rencontres en face à face, une simple montre connectée qui a un microphone intégré est capable d'analyser vos conversations en temps réel, d'analyser les tours de parole, d'analyser le nombre de fois où vous parlez, avec combien de personnes différentes, qu'est-ce que vous leur dites éventuellement, puisqu'on a des systèmes de reconnaissance vocale aujourd'hui qui sont relativement ou même très efficaces. Combien de fois vous êtes en coprésence avec d'autres personnes, sur les différentes communications qui sont médiatisées par un dispositif, la durée des appels, le nombre d'appels, le nombre de personnes différentes à qui vous parlez, la prosodie, l'intensité de la voix dont on peut tirer des éléments sur votre humeur, sur votre état physique même, est-ce que vous toussez, est-ce que vous reniflez, est-ce que vous passez l'aspirateur? Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la santé mentale? Il est bien évident le rapport quand même, c'est-à-dire, si vous apercevez que quelqu'un ne passe pas l'aspirateur depuis 3 mois alors qu'avant il le passait, peut-être qu'il y a un problème d'humeur dépressive. Si la personne se met à le passer 4 heures par jour, peut-être qu'il y a un problème un peu obsessionnel, etc., etc. Donc un simple aspirateur, ça peut nous dire finalement beaucoup de choses, de même qu'une porte d'entrée, de même que tout un tas d'objets du quotidien. La brosse à dents connectée peut vous informer sur l'hygiène de la personne, le nombre de fois où vous touchez votre smartphone, vous l'ouvrez, vous le fermez, vous utilisez une application, etc. Tout ça, ce sont des proxys, finalement, qui peuvent nous informer sur variables sous-jacentes, psychologiques, comportementales, relationnelles, voire même physiologiques. On a des capteurs qui font des choses plus physiologiques que ça. Donc, la conjonction d'évolution dans la conception des troubles et de nouveaux outils qui sont beaucoup plus fins, qui permettent de recueillir beaucoup de paramètres en temps réel et en situation, ça pourrait nous permettre d'évoluer de cette logique de soit on a un trouble, soit on n'en a pas, du coup soit on a un traitement, soit on n'en a pas, vers finalement cette logique de réseau, système, bassin d'attraction et gestion fine des trajectoires dans les bassins d'attraction. C'est-à-dire comment on fait en sorte pour éviter que la personne, par exemple, s'enferme dans un bassin d'attraction. Alors, ça pourrait donner ça, cette conjonction d'évolution nosographique et d'évolution technologique. Si tant est que ça doive donner ça, qu'est-ce que ça engendrerait pour le champ psychiatrique? 5 évolutions que j'ai appelées les extensions sont envisageables. Premièrement, extension temporelle et spatiale de la consultation, c'est-à-dire la consultation occasionnelle, très limitée dans le temps et dans l'espace qu'on connaît actuellement. Ça s'étendra vers ce que j'ai appelé des relations cliniques et thérapeutiques spatialement et temporairement augmentées, c'est-à-dire finalement la possibilité d'observer, d'interagir et d'intervenir par de multiples moyens à tout moment et en tout lieu sur le patient et sur des éléments de sa situation. Deuxième extension, une extension thématique. Il y a beaucoup de données auxquelles on ne peut pas accéder dans le cadre du colloque singulier, dans le cadre du cabinet. Ça va le devenir. C'est accessible, ces données. Donc, ça ouvrira la possibilité de ce que j'ai appelé une clinique augmentée à la situation et donc un nécessaire réexamen des catégories d'entendement médical actuel vers ce que j'ai montré préalablement. Parce que les outils d'observation qu'on a, conceptuels, ont été conçus sur la base des outils d'observation et d'intervention qu'on avait à l'époque. Ils ne sont plus adaptés aux outils qu'on a aujourd'hui. Ça va faire que ces nouvelles conceptualisations vont dépasser les limites des approches strictement individualistes des troubles pour intégrer une lecture systémique et située, ça va probablement entraîner une déconstruction massive des catégories nosographiques actuelles avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Extension relationnelle, donc, le colloque singulier qui est la principale modalité actuelle, en particulier en psychiatrie, c'est une unité de temps, de lieu d'action et d'acteur. Les technologies connectées ont vraiment un important potentiel de déstructuration de ça parce que ça va permettre à de multiples acteurs humains et techniques d'observer et d'intervenir en des moments, dans des lieux et sur des paramètres qui sont absolument inaccessibles en ce colloque singulier. Donc on va avoir une pluralité d'acteurs, un réseau d'acteurs qui vont intervenir simultanément. Alors ça va donner ce que j'ai appelé la chose suivante, ce ne sera plus une confiance qui rencontre une conscience, selon l'expression consacrée, c'est-à-dire un patient qui se confie, qui suit aveuglément ce qui est décidé pour lui, et de l'autre côté un praticien dont la compétence est supposée acquise et s'exercer en conscience, mais on va avoir une rationalité pratique, c'est-à-dire chez le patient, un agent engagé qui devra être capable de discerner entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas, et qui va se trouver placé au confluent de multiples sources hétérogènes de données et d'actions, plus ou moins coordonnées, des personnes, des objets, des applications interconnectées, dont la compétence individuelle et collective va être évolutive et difficile à certifier et à caractériser. Quatrième extension du potentiel de décision et d'action du patient. Alors la relation patient-médecin, elle est structurellement dissymétrique actuellement, parce qu'il y a un différentiel de compétences qui est indépassable et qui le restera, bien évidemment, mais aussi parce qu'il y a une difficulté pratique pour le patient à intégrer les accès à différents praticiens, différentes prestations de services, différentes sources d'informations et de compétences dans un ensemble coordonné dont il serait le centre. Alors, on a beau dire le patient au centre, opérationnellement, si le patient veut le faire, c'est pas si simple que ça. Avec les technologies connectées, le patient futur, désormais agent, donc, aura la possibilité de construire par lui-même un système articulant de différents multiples systèmes d'observation qui vont lui permettre de se construire par lui-même une représentation articulée et sophistiquée de son fonctionnement et d'avoir recours donc à de multiples dispositifs d'intervention qui vont lui permettre d'agir par lui-même avec l'aide de différents professionnels sur ce fonctionnement. Et là, c'est la position du médecin comme unique source d'expertise théorique et surtout pratique qui va se trouver ébranlée. Et finalement, une extension que j'ai appelée anthropologique, pour dire que je fais ici référence à des terminologies de Norbert Elias, donc ce que Norbert Elias appelait l'homo psychiatricus, qui est une conceptualisation d'un humain un peu fermé sur lui-même, dans lequel il y a des troubles à l'intérieur, va évoluer vers ce qu'il appelle l'homo sociologicus, c'est-à-dire une lecture beaucoup plus systémique, l'individu, la personne en l'occurrence, comme un nexus, c'est-à-dire quelque chose qui est au croisement de chaînes d'interdépendance multiples et complexes. Et là encore, ça va nous amener à repenser la manière dont, à faire évoluer la manière dont nous pensons l'humain psychopathologique en psychiatrie, par exemple. Et pour finir sur le zéro de... Donc le développement des technologies connectées est susceptible d'avoir des conséquences très importantes dans le champ de la santé mentale et d'entraîner des reconfigurations épistémologiques, thérapeutiques, organisationnelles et éthiques majeur. Il y a beaucoup de frontières établies, à mon avis, entre la consultation et la vie quotidienne, la prévention et le soin, l'observation et l'intervention, la science et la technologie, l'intériorité psychique et la vie publique, qui risquent d'être remises en question de façon très sérieuse. Et donc, c'est vraiment important, et c'est ce qu'on fait là, comme dans d'autres lieux, de réfléchir sans attendre que ces technologies se diffusent sauvagement, ce qu'elles font déjà, hein, pour être franc. Donc c'est important de réfléchir au niveau technique, conceptuel et éthique. Merci.
Merci et désolé d'être un tout petit peu pressant, mais c'est vrai qu'on a essayé de garder le timing. C'est d'autant plus intéressant que le sujet est tout à fait passionnant et toujours été frappé du fait que dans une consultation psychiatrique, on demande aux patients en 10 minutes de nous raconter ce qui s'est fait en un mois, et personne n'est capable de faire ça. Et là, effectivement, avec les objets numériques, le faire en temps immédiat et pouvoir le colliger pour pouvoir le retransmettre est une manière extraordinaire d'augmenter. Et vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ton constat sur le fait qu'on a une nouvelle sémiologie à inventer. Et Dieu sait que celle-là, elle sera 10 fois plus riche, on aura tout intérêt à y gagner.